Vous écoutez, on lit pour vous.
Éduc'alcool nous informe mal sur l'alcool. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. Depuis plus de 3 décennies, Éduc'alcool est la référence en matière de consommation d'alcool auprès des Québécois. Or, l'organisme qui bénéficie d'une grande crédibilité auprès du public véhicule de l'information désuète, parfois même erronée. De quoi étonner ceux qui croient que sa mission est vouée à la santé publique, car ce n'est pas le cas. Une grande enquête du Devoir. 5 jeunes dégustent un morceau de pastèque en bord de mer, tout sourire. Ils sont les visages de la section du site web d'Éduc'alcool intitulée Les effets de la consommation modérée et régulière d'alcool, mise à jour en décembre 2022. L'organisation y énumère les effets bénéfiques pour la santé d'une consommation modérée et régulière d'alcool qui est associée à une diminution de risque de certaines maladies. Une pléiade d'études de la fin des années 1990 sont citées afin d'expliquer que l'alcool permettrait de réduire les risques rhumatoïdes ou de rhumatisme chez les femmes, d'arthrite, de pierres aux reins, d'infections ainsi que de simples grippes. Est aussi incluse l'hypothèse voulant que l'alcool puisse être associé à une augmentation de la densité minérale des eaux. Une autre étude avance que les buveurs modérés auraient environ 30% moins de chances que les abstinents de développer du diabète. On peut également lire qu'une consommation modérée et régulière d'alcool favorise la relaxation, réduit le stress et améliore l'humeur et la sociabilité. Le hic, c'est qu'à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, ces informations sont désuètes, voire complètement erronées. Risques minimisés, bienfaits exagérés. Selon les spécialistes à qui Le Devoir a parlé, les nombreuses brochures sur le thème de l'alcool et la santé produites au fil des années par Éduc'alcool et toujours disponibles sur son site sont problématiques pour 2 raisons. D'abord, elles minimisent les risques posés par la consommation d'alcool, notamment en ce qui concerne le cancer. Ensuite, elles mettent de l'avant des bienfaits parfois exagérés. Par exemple, en 2019, Éduc'alcool publie la brochure L'alcool et le cœur, distribué dans les succursales de la Société des alcools du Québec. L'organisme y présente des résultats d'études portant sur la consommation d'alcool et ses effets sur le cœur et conclut qu'une consommation modérée d'alcool, pas seulement de vin rouge, est bénéfique pour la santé cardiaque. Une version mise à jour en 2022 est disponible sur son site. Ces conclusions font sourciller les experts consultés par Le Devoir qui expliquent que la science a beaucoup évolué à ce sujet. Les profils génétiques des personnes qui finissent par être de légers buveurs ne montrent aucun bénéfice et, dans certains cas, un léger risque accru de problèmes cardiovasculaires. Il n'y a donc aucune preuve que l'alcool présente des bienfaits en ce qui concerne la pression artérielle ou l'hypertension. Au mieux, la prise d'un verre par jour ne montre ni bénéfice ni préjudice, indique le Dr Peter R. Butt du Collège de médecine familiale de l'Université de la Saskatchewan. Celui qui a coprésidé les 2 formulations de recommandations en matière de consommation d'alcool publiées par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances rappelle que la Fédération mondiale du cœur a publié en 2022 une déclaration politique à ce sujet, laquelle affirme que l'alcool n'est pas bon pour le cœur. Une position soutenue par l'Institut national de santé publique du Québec. Le Devoir a aussi questionné le Collège des médecins au sujet d'une brochure publiée en 2011 intitulée « Guide pour les médecins et les professionnels de la santé » sur laquelle le Collège a apposé son logo. On y trouve notamment un tableau statistique expliquant la diminution du risque de certaines maladies que procure une consommation modérée d'alcool. La brochure a été retirée du site d'Éduc'alcool après que le Collège des médecins eut communiqué avec l'organisme à la suite des questions du devoir. Le pire au monde, le site web d'Éducalcool a même été désigné comme un des pires au monde en matière de désinformation dans une étude britannique de 2017 dont le titre se traduirait par « Comment les organisations de l'industrie de l'alcool trompent le public au sujet de l'alcool et du cancer ». L'étude a été co-signée par Mark Pettigrew, professeur d'évaluation des politiques de santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et spécialiste de l'analyse des stratégies de lobbying de l'industrie de l'alcool et du tabac. Avec son équipe, il a analysé les informations dispensées par 27 organisations financées par l'industrie de l'alcool dans le monde, dont Éducalcool. Mark Pettigrew juge alarmant que tant de gens se fient à des informations potentiellement nuisibles. Encore aujourd'hui, sur son site, on trouve des publications qui promeuvent activement les bienfaits de l'alcool pour la santé. Le monde a évolué. Ces informations sont scientifiquement inexactes. C'est de la pseudo-science. Je serai plus nuancé. L'information sur le site d'Éducalcool est désuète. Elle a besoin d'être mise à jour, mais elle n'est pas complètement fausse, répond la directrice générale d'Éducalcool, Geneviève Desautels. De son côté, Hubert Sassy, qui a dirigé l'organisme de sa fondation en 1989 à décembre 2021, qualifie cette étude britannique de « biaisée » et dit qu'elle « regardait un truc et en éliminait 90 autres ». Vous écoutez « Éducalcool nous informe mal sur l'alcool ». Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallée paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. Une validation scientifique à revoir. À mon époque, tous les 3 ans, les publications à tour de rôle étaient remises à jour à la lumière des nouvelles découvertes et soumises aux réviseurs scientifiques externes. On prenait toutes les précautions au monde pour faire un travail équilibré, affirme Hubert Sassy. Geneviève Desautels rappelle qu'Éducalcool s'est doté d'un comité scientifique en juillet 2020, mais que le mandat de celui-ci n'a jamais été de réviser ou valider le contenu du site Internet ni celui des campagnes. Présidente du conseil d'administration d'Éducalcool de 2007 à 2019 et membre du conseil scientifique de l'organisme depuis sa création, Louise Nadeau, professeur émérite du département de psychologie de l'Université de Montréal, assure ne pas être au fait d'informations erronées se trouvant sur le site de l'organisme. « Je ne regarde pas le site d'Éducalcool », affirme-t-elle. En entrevue avec Le Devoir, elle a annoncé remettre sa démission à Éducalcool qui n'aurait, selon elle, jamais réuni son comité scientifique en plus d'un an et demi. Questionnée sur son éventuel sentiment que sa crédibilité a été utilisée, elle répond « C'est pour ça qu'il faut que je démissionne. Il se passe exactement ce que je craignais. » La directrice d'Éducalcool précise que l'organisation s'oriente désormais vers l'embauche d'un conseiller scientifique interne dont la mission sera de collaborer étroitement avec des associations médicales et de santé afin de garantir une rigueur scientifique et une objectivité accrue dans ses actions. Ce changement vise à s'appuyer sur la communauté scientifique dans son ensemble afin de s'assurer que l'organisation reflète les évolutions les plus récentes et pertinentes dans le domaine. Des liens mal connus entre Éducalcool et l'industrie. Sur son site Internet, Éducalcool se targue d'être l'organisme qui s'impose comme la référence en matière de consommation d'alcool au Québec. Dans la section « Planification stratégique », l'organisme se définit lui-même comme l'interlocuteur incontournable des organisations, des décideurs et des personnes souhaitant promouvoir et adopter des comportements responsables face à l'alcool. Ce que plusieurs Québécois et décideurs publics ignorent, c'est que l'organisme, fondé en 1989, n'a jamais eu une mission de santé publique, mais plutôt de promotion de la consommation responsable d'alcool. En démystifiant l'alcool, en déculpabilisant le consommateur, en prônant l'équilibre, Éduc'alcool assure la survie du commerce des boissons alcoolisées, avait déclaré en 1990 un des cofondateurs de l'organisme, Claude Marié, qui était à l'époque vice-président de la Société des alcools du Québec, SAC. L'organisme est financé par le volume d'alcool vendu notamment par la SAC, les dépanneurs et les épiceries. La SAC revendique même la paternité d'Éduc'alcool et de son slogan « La modération a bien meilleur goût ». Sur son site web, Éduc'alcool réserve seulement deux phrases à la présentation de son modèle de financement qui repose sur la responsabilité des entreprises face à un produit dont l'abus est nocif pour la santé. L'organisme précise aussi consacrer 85 % de son financement directement à des programmes de prévention et d'éducation en lien avec sa mission. Jusqu'en 2022, ses états financiers n'étaient pas rendus publics. Mais, selon ceux de la SAC, c'est de 2,5 millions à 3,6 millions de dollars qui sont remis chaque année à l'organisme depuis sa création. L'entente de financement, c'est sur le volume et non pas sur le pourcentage des ventes. C'est dessous la bouteille, un peu comme la consigne, indique Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool en entrevue avec Le Devoir. Selon elle, Éduc'alcool a toujours été clair sur sa mission. On n'est pas contre la consommation d'alcool, on ne l'a jamais été. Elle explique que le travail de l'organisme consiste à amener la population à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable. Et qui dit consommation responsable dit aussi se concentrer à réduire les impacts, les effets de la culture de banalisation de la surconsommation. La modération est une question de responsabilisation, assure Hubert Sassy, qui a été à la tête de l'organisme de sa fondation jusqu'en décembre 2021. Il assure que, même si Éduc'alcool a été fondé par la SAC, il n'a jamais servi à véhiculer les positions de l'industrie de l'alcool. Ce qui prévalait à l'époque était le devoir de donner aux consommateurs le mode d'emploi du produit qu'est l'alcool. Donc, ce n'est pas un conflit d'intérêt d'être financé par le volume des ventes de l'alcool, estime-t-il. Un CA proche de l'industrie. Geneviève Desautels, qui est entrée en poste en 2022, reconnaît l'apparence de conflit d'intérêt entre l'organisme et l'industrie des boissons alcoolisées, mais elle assure qu'un vent de changement est en marche au sein de l'organisation, où de nouveaux règlements généraux ont été adoptés en mai dernier. Je n'ai aucun souci à dire qu'il y avait une apparence de conflit d'intérêt. En 1989, quand Éduc'alcool a été fondé, on n'avait pas du tout cette connaissance, cette conscience de ce qu'est une apparence de conflit d'intérêt, précise-t-elle. Maintenant, 100% des membres sont là en leur propre nom et ne sont plus nommés par l'industrie de l'alcool comme c'était le cas avant. C'est ça, le méga changement, indique Geneviève Desautels, qui précise également que la SAC n'a plus de membres observateurs. Pourtant, encore aujourd'hui, 4 des 8 membres du conseil d'administration d'Éduc'alcool travaillent pour l'industrie de l'alcool. C'est le cas de Christian Hébert, maître cidriculteur, de Hugues Latulippe, de Vin Artera Canada, de Catherine Lessard, directrice générale de A3 Québec, qui représente des agences de vin, de bière et de spiritueux, ainsi que de Nathalie Lise Lelle, directrice des affaires générales chez Diageo, qui a rejoint le CA cette année. Le Devoir a constaté que Mme Lelle était inscrite comme lobbyiste active tant auprès du gouvernement provincial qu'auprès du gouvernement fédéral pour le compte de Diageo, le plus gros portefeuille de l'industrie, avec plus de 200 marques d'alcool. En apparence, je vous l'accorde, il peut y avoir apparence de conflit d'intérêts. Mais dans le réel, ce n'est pas le cas, affirme Mme Desautels, qui demande d'être patient puisqu'un appel de candidature sera effectué prochainement afin de constituer le prochain conseil d'administration d'Éducalcool. Geneviève Desautels souhaite désormais diversifier le financement de son organisme. L'option la plus probable, selon elle, serait de se tourner vers d'autres acteurs de l'industrie de l'alcool. Questionnée sur le changement de cap visant à dissiper l'apparence de conflit d'intérêts de l'organisation, Hubert Sassy répond ne pas vouloir jouer les belles-mères, mais fait remarquer que la source de financement reste la même. Si vous dites que le financement détermine la crédibilité, cette question-là est toujours là. C'était Éducalcool nous informe mal sur l'alcool, un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir.
Manitobains démunis, anéantis par la suspension d'une aide au logement provincial. Un texte de Richard Sabé, avec les informations de Yann Freuse, paru le 11 septembre 2024 sur Ici Manitoba. Le gouvernement du Manitoba a retiré l'aide financière sur laquelle 400 personnes susceptibles de devenir des sans-abri comptaient pour payer leur loyer, une décision surprenante qui déçoit autant les locataires vulnérables que leurs défenseurs. La province a en effet décrété une pause temporaire sur les nouvelles demandes pour les volets itinérance et jeunesse de l'allocation pour le logement Canada-Manitoba, ALCM, en raison d'une demande sans précédent, selon une lettre envoyée à certains organismes communautaires. Cette prestation permet d'obtenir un supplément de loyer pouvant aller jusqu'à 422 $ par mois, explique un communiqué de presse publié par des défenseurs du logement mardi. Ces derniers ont appris que la province aurait reçu quelque 400 demandes depuis que le gouvernement a cessé de les traiter le 2 août. Or, ils n'ont été informés de la suspension que le 30 août. La directrice générale de New Journey Housing, Cody Gwenter, explique que la lettre de la province a provoqué un choc, non seulement pour elle, mais aussi et surtout pour les nouveaux arrivants auxquels son organisme vient en aide. Citation : Nous leur avions parlé de cette aide tout au long de l'été. Nous leur avons dit : Gardez cela à l'esprit lorsque vous chercherez un logement. Et maintenant, elle n'est pas là. Fin de citation. Des choix difficiles. Selon la province, la suspension ne concerne que les personnes qui souhaitent commencer à recevoir la prestation et non celles qui étaient déjà inscrites au programme. Toutefois, certains nouveaux demandeurs venaient de signer un bail en pensant qu'ils auraient droit au supplément, comme l'explique Cody Gwenter. Ils doivent maintenant faire des choix budgétaires déchirants, déplore-t-elle. C'est le cas d'une nouvelle arrivante qui a fui son pays d'origine et pour qui la perte de la LCM signifie la prolongation de son séjour dans un refuge d'urgence. CBC Radio-Canada a accepté de ne pas donner le nom de la demandeuse d'asile, car elle craint que cela ne compromette ses chances de rester au Canada. Cody Gwenter précise que de nombreuses personnes à faible revenu n'ont d'autre choix que de se tourner vers le marché privé en raison d'une pénurie criante de logements sociaux. Les personnes seules bénéficiant de l'aide à l'emploi et aux revenus ne reçoivent que 638 $ par mois pour leur logement. C'est pourquoi les programmes tels que l'ALCM sont essentiels, selon Cody Gwenter. Citation : Le fait d'avoir un supplément comme celui-ci ajoute environ 350 $ à leur budget de logement, ce qui élargit l'univers de l'allocation. Fin de citation, explique-t-elle. Citation : Elles peuvent ainsi trouver un logement aux alentours de 900 à 1000 $ par mois, ce qui est beaucoup plus faisable que 640 $. Fin de citation. Une pause s'imposait, dit le NPD. Le gouvernement néo-démocrate a déclaré que la suspension des nouvelles demandes était nécessaire pour s'assurer que les ménages ayant le plus besoin d'aide aient accès aux fonds limités. Par courriel, la porte-parole Nalin Rampersad dit que la province a enregistré une explosion des demandes d'aide et qu'elle avait entrepris de déterminer celles qui sont les plus touchées par la suspension, alors que des options pour prévenir le sans-abrisme seraient exploitées. Le 30 juin, 3088 personnes bénéficiaient de la LCM, a-t-elle précisé, un programme financé conjointement par la province et le gouvernement fédéral. Or, depuis le 2 août, plus de 400 personnes ont déposé une demande dans le cadre du volet itinérance de l'allocation. La LCM, financée conjointement par la province et le gouvernement fédéral, disposait d'un budget d'environ 8,6 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025, indique la porte-parole. La province affirme ainsi avoir reçu près de 5 fois plus de demandes entre décembre 2022 et juin 2024. Elle met en cause une révision des conditions d'admissibilité survenue au printemps 2023 sans expliquer comment elles avaient été modifiées. Citation. Nous sommes également en contact avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer qu'ils comprennent la demande croissante de cette prestation au Manitoba. Fin de citation, précise le communiqué. Selon Cody Guenther, le fait que le programme est débordé par les demandes démontre à quel point il est difficile pour la population manitobaine de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Elle souhaite que le gouvernement honore les demandes qu'il a reçues depuis le mois d'août. Entre-temps, Cody Guenther prévoit que la liste d'attente pour les logements sociaux s'allongera et que davantage de personnes demanderont à bénéficier du Fonds d'allègement des loyers du Manitoba, qui accorde des prêts sans intérêt pour aider les personnes à faible revenu à éviter l'expulsion en raison de retard de paiement de loyer. L'allocation pour le logement Canada-Manitoba continue de traiter les demandes pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui vivent dans des immeubles de logement désignés, ainsi que pour les personnes qui ont quitté une situation de violence fondée sur le genre et qui sont hébergées dans un refuge, a indiqué la province. C'était 400 Manitobains démunis, anéantis par la suspension d'une aide au logement provincial. Un texte de Richard Sabé, avec les informations de Yann Freuse, paru le 11 septembre 2024 sur Ici Manitoba.
Les maillons invisibles du filet social, un texte d'Anne-Marie Boucher, paru le 10 octobre 2024 dans la presse. Anne-Marie Boucher est co-coordonnatrice du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Passer la porte d'une ressource alternative en santé mentale, c'est être salué par son nom, taquiné par l'un, invité à boire un café par une autre, c'est se sentir bienvenu. C'est aussi, parfois, arriver un peu d'avance pour l'activité, juste pour le plaisir de retrouver des visages connus, des personnes qui sont devenues avec le temps presque une famille. Ou même une famille en mieux. C'est participer à des échanges où notre histoire compte, où notre expérience de vie permet à d'autres de cheminer, d'ouvrir des sentiers plus doux parmi les ronces du désespoir. L'entraide, c'est loin d'être fou. L'expérience de l'entraide en santé mentale, ça dépasse le cliché du groupe de soutien tel qu'on en voit parfois dans des séries télé. C'est une expérience humaine profonde, riche et désarmante de simplicité. Exister pour l'autre, ça permet d'habiter le monde avec plus de douceur. Mettre son expérience de vie au service de l'autre, ça permet d'en faire sens doublement. Et créer des relations informelles de réciprocité, ça ajoute ce « je ne sais quoi » à l'existence. Un sentiment de sécurité, une meilleure qualité de vie. Les ressources alternatives en santé mentale soutiennent l'entraide depuis plus de 40 ans. Pourtant, cette pratique demeure invisible, et on en méconnaît les impacts bénéfiques. C'est pourquoi, en 2024, l'entraide était le thème de la journée de l'alternative en santé mentale, soulignée le 10 octobre depuis 2013. À cette occasion, plus d'une trentaine de groupes communautaires participèrent à des actions visant à promouvoir l'entraide comme pratique essentielle en santé mentale, que ce soit par une campagne de cartes postales, le dépôt d'une œuvre d'art collective au ministre Lionel Carman ou la tenue d'activités publiques dans leur communauté. S'il est difficile de mesurer et de quantifier l'entraide, elle n'en est pas moins un maillon essentiel de notre filet social. Donnons l'exemple de la Barre du Jour, ce groupe de Saint-Gervais, dans Bellechasse, qui a créé, à l'initiative de ses membres, une escouade qui intervient dans les domiciles des personnes hospitalisées avec leur consentement. Les membres bénévoles de ce groupe d'entraide y vont pour faire du ménage, préparer des repas, changer les draps, afin de s'assurer qu'au moment de leur sortie, les personnes ayant traversé un épisode difficile seront accueillies dans les meilleures conditions avec l'odeur de biscuits fraîchement cuits au four. Un autre exemple? Cette ressource communautaire de Montréal-Nord, CAMÉ, qui, au quotidien, soutient ses membres dans leur implication afin que ce lieu leur appartienne réellement. À CAMÉ, les membres ont les clés et ce sont eux qui accueillent les autres membres. Ensemble, ces personnes organisent des ateliers d'art visuel, de musique, des cafés-discussion, des espaces de partage sur la santé mentale. Ils prennent pleinement leur espace et y découvrent leurs forces et trouvent un nouvel équilibre. Plus d'une trentaine de ressources alternatives en santé mentale, des groupes communautaires où l'on vit l'entraide, ont finalisé les dernières touches d'une œuvre d'art collective intitulée « Filet d'humanité », qui sera l'objet d'une capsule vidéo, mais qui a été également remise au ministre délégué Lionel Carman. Lui remettre ce filet d'humanité construit à partir d'une pauvre corde de jute, c'est lui transmettre notre préoccupation grandissante et la détresse de nos groupes face à la détérioration des conditions de vie de la population. Les groupes communautaires en santé mentale, quoiqu'essentiels pour nos communautés, ne peuvent remplacer des conditions de vie dignes, investissement dans le logement, dans la lutte contre la pauvreté. Notre attente est ainsi double envers le gouvernement du Québec. Soutenir davantage les groupes communautaires, mais également le filet social qui semble, par les temps qui courent, ne tenir qu'à un fil. C'était « Les maillons invisibles du filet social », un texte d'Anne-Marie Boucher, paru le 10 octobre 2024 dans la presse.